Aujourd'hui, émission très spéciale avec Alex Fredo, l'humoriste aux millions de vues.
J'ai une petite notoriété, c'est-à-dire que je marche dans la rue tranquille. Voilà, tranquillou. Et des fois, ça porte à confusion. Des fois, il y a un mec dans le métro, il me regarde un peu avec insistance comme ça. Tiens. Et je sais pas s'il y a bagarre ou selfie. Voilà, c'est ça un peu... Si c'est un peu mi connu, mi pas connu. Mais j'aime bien.
Est-ce qu'on te l'a déjà dit ça quand tu dis viens jouer vendredi soir, ben t'en feras deux la prochaine fois.
Je suis chômeur Shabbat. C'est-à-dire je suis gardien. Je sens que dans ma vie, si je mets pas des murs autour de Shabbat, ça s'écroule. Et c'est là que j'ai été aidé, je pense. Parce que en vrai, tout s'est goupillé de façon à ce que ce soit possible, et aussi de façon à ce que je sois respecté pour ça. Puis un soir, il arrive à la maison, il me demande d'imprimer un truc. Puis je lui dis je peux pas toucher l'électricité, tu vois. Il me dit mais on est jeudi là. Je dis, bah, c'est Shabbat. Ça commence ce soir et ça finit samedi soir. Et dans un élan de panique, il m'a dit, mais tu vas toutes les faire, là. On était sur Torah Box et on a kiffé. On n'a pas trop rigolé, mais on a parlé de spiritualité.
Salut à tous et bienvenue sur Torah Box pour ce nouvel épisode de Panim El Panim. Aujourd'hui, émission très spéciale avec Alex Fredo, l'humoriste aux millions de vues qui cartonne dans les salles et qui tient un discours très 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 fort sur sa teshuva, son retour à la religion. Il va nous expliquer comment il gère sa carrière tout en respectant le Shabbat. On perd plus de temps, c'est parti tout de suite pour ce nouvel épisode de Panim El Panim avec Alex Fredo. Alex, bienvenue sur Torah Box.
Merci.
On est super content de t'avoir.
Bah moi aussi.
On ne te présente plus. Tu es la nouvelle star de la nouvelle génération d'humoristes. Des millions de vues cumulées sur les réseaux, des salles pleines. Mais toi, tu as dit un jour dans un spectacle, je suis connu, mais je ne suis pas connu. Est-ce que tu peux expliquer ce paradoxe?
Connu, pas connu?
Ouais.
J'ai une petite notoriété. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire petite notoriété. C'est-à-dire que je marche dans la rue tranquille. Voilà, tranquillou. Et des fois, ça porte à confusion. Des fois, il y a un mec dans le métro, il me regarde un peu avec insistance comme ça. Tiens. Et je sais pas s'il y a bagarre ou selfie. Voilà. C'est ça un peu. Si c'est un peu mi connu, mi pas connu. Mais j'aime bien. J'aime bien cette espèce d'équilibre comme ça qui. J'adore.
Super. Bon, on est sur Torah Box. On va parler de ta teshuva, évidemment, de ton retour à la religion depuis quelques années. Sur scène, tu parles souvent de ta religion juive. Tu essayes même de faire deviner à ton public ta religion. On va reparler de ça un peu plus tard. C'est un passage qui est complètement hilarant.
Ouais.
Première question, pourquoi tu n'hésites pas à parler de ta religion avec autant de fierté, dans un contexte où, en général, quand on est juif en France, on se fait un petit peu discret, quoi. Toi, t'en parles de manière...
Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'être juif en France, il faut se faire discret. Je pense que les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on soit juif, qu'on soit fier d'être juif, et qu'on soit juif et qu'on fasse exploser notre spiritualité plus que nos... Si tu veux, juste je te fais un exemple. J'étais à la table de Shabbat à ma famille.
Ok,
chez ma famille. Vous savez, la table, le shulchan. Ok, ça c'est la table. J'étudie en chavruta avec quelqu'un qui on a fait une petite étude là-dessus.
En binôme, je traduis.
En binôme. Ouais. En panim el panim. En face à face.
Ouais.
Et il m'a fait une étude là-dessus. Il m'a dit shulchan en fait. Dans shulchan il y a lamed et lamed c'est la plus grande lettre. De l'alphabet. Et en fait, parce qu'elle veut dire limoud, lamed, quand tu sais, toutes les lettres de l'alphabet, on peut les écrire. Contrairement au A qui ne s'écrit que juste A, lamed, c'est L-A-M-E-D, tu vois, c'est aussi
lamed de lettres.
Voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est des lettres qui s'écrivent, ok. Et qu'est-ce que c'est lamed? C'est limoud, c'est l'étude, ok. Et donc, si tu enlèves le lamed de Shulchan et que tu inverses les lettres, ça fait Nahash. Et donc, en fait, une table sans limoud, sans parole de Torah, c'est comme de la Avodah Zara, en fait. Et donc,
Nahash qui veut dire serpent.
Nahash qui veut dire serpent. Et donc, qui est cette espèce de truc un peu insidieux qui nous a fait faire le premier péché, finalement. Et, enfin, moi, personnellement, je suis pas concerné. Mais bon, il faut qu'il y ait l'autre. Qu'il y a un serpent qui lui a dit vas-y, et qu'elle y aille. Et que nous, après, elle nous dit on y va. Et donc on y va parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, il faut les écouter, sinon elle boude. Voilà.
Ça, c'est la vie.
Et bien, qu'est-ce que tu veux
Mariez-vous.
Que
je dise Mariez-vous.
Mariez-vous et puis arrêtez d'écouter. Mesdames, arrêtez d'écouter les serpents. Non, et donc du coup, je faisais ce parallèle-là. Et j'allais le soir même manger avec ma famille à la table de Shabbat. Et en fait, la table de Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est une table dans laquelle on fait des paroles de Torah, dans laquelle on parle de la paracha de la semaine. On essaie d'extraire un peu l'essence de ce que ça veut dire, de faire des belles paroles, de se grandir, de s'élever. Et ça commence à parler de Mélenchon, LFI, et le Hamas, et les tanks, et les missiles, et machin. Et je me dis, mais est-ce qu'on est en train de faire du limoud là? Alors oui, ok, on peut en parler, mais toutes les tables de Shabbat parlent de ça aujourd'hui. Toutes les tables, et Israël, t'as vu ce qui se passe en Israël, et les missiles, ils ont reçu 5 missiles, et l'Iran, et Trump, et machin. Mais c'est, excusez-moi, mais c'est, je veux pas faire des leçons de morale. Oui, ça fait partie de notre réalité, mais c'est pas ça du limoud. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça ce que ça défend. Donc, moi, je pense que, si tu veux, si on s'efforçait plus dans notre judaïsme d'essayer de chercher la beauté et l'essence de ce que c'est que la Torah, alors on n'aurait pas du tout de quoi être honteux de dire qu'on est juif, et même toutes les nations nous respecteraient. Et puis bon, là, aujourd'hui, on est dans une guerre, donc c'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, avec mon judaïsme, ce que je défends, et ma spiritualité, qui est sans Mélenchon, LFI, le Hamas et Rima Hassan, quand j'essaye de défendre certaines choses et que j'essaye de transmettre des idées de Torah, je suis respecté. Et les gens me disent que c'est beau ce que je dis, tu vois. Les goyim, les juifs. Donc, je suis beaucoup plus là-dedans. Je suis beaucoup plus dans la spiritualité que dans les tanks et les hélicoptères.
Mais est-ce que tu as des limites ou des filtres? Tu dis, celle-là, non, elle passera pas. Quand tu es sur scène, par exemple, avec des non-juifs.
Non.
Sans filtre. C'est ça qui part.
Parce que en fait, ils sentent, les gens, qu'au fond, je suis pas du tout... Dans la malveillance, dans l'agressivité, dans le racisme, dans l'islamophobie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis plus dans... voilà, cette semaine, là, c'était la paracha chez Mini, tu vois, enfin, la semaine dernière, du coup. J'étais plus dans, voilà, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'impureté, qu'est-ce que c'est qu'un aliment immonde, qu'est-ce que c'est un aliment impur, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, pourquoi... Je suis beaucoup plus là-dedans. Et franchement, encore une fois, c'est pas des leçons de morale que je fais. Et je sais très bien qu'il y a des gens, ils sont dans les deux et qui vont me dire, bah oui, mais on peut être très bien dans les deux. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans le désert. On est aujourd'hui avec une situation. Il y a de l'antisémitisme. Oui, il y a de l'antisémitisme. Mais je veux dire, il y a un moment donné où oui, il y a de l'antisémitisme. Il y en a toujours eu. Mais est-ce que on veut passer nos journées à dire qu'il y a de l'antisémitisme et que c'est un scandale, ou on veut passer nos journées à faire autre chose? Moi, je décide de passer mes journées à faire autre chose. Simplement.
On va voir un petit passage de ton spectacle, donc je suis fan, c'est quand tu fais découvrir au public ta religion, ils doivent deviner.
Quand je la fais deviner, ouais, avec des indices.
Ok.
Par exemple, tous les humoristes, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils parlent beaucoup de leur religion, tout ça. Et moi, je vais vous dire ma religion. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Mais je vais pas vous la dire direct, comme ça. Je vais vous la faire deviner avec 3 indices. Ok. Premier indice. Si vous voulez me voir en spectacle le vendredi soir, va falloir venir dîner à la maison. Okay. Pour ceux qui l'ont pas, il y en a qui l'ont pas. Je le sens qu'il y en a qui l'ont pas. Si j'avais été vivant en 39-45, ça aurait été une grosse période de stress pour moi. Et pour ceux qui l'ont toujours pas, écoutez, la vérité, je peux plus rien faire pour vous, là, vraiment.
C'est vrai que je le fais, et je l'ai surtout fait au début de ce nouveau spectacle. Maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui ont vu la vidéo, les gens, ils savent, ils connaissent ma religion. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était marrant. Et puis, effectivement, ça donne des impros des fois, parce que des gens, ils ne savent pas du tout. Et ça donne des impros incroyables. Et j'adore, parce qu'en plus...
Mais ils font semblant. Ils ne font pas semblant.
Il y en a, ils ne savent pas. Ils ne voient pas du tout de quoi je parle. Et c'est très drôle.
C'est ouf. Ouais. En parlant d'extrait, il y a un extrait qui est ressorti, qui date de quelques années, qui est ressorti là pendant Pessah, et qui n'a pas arrêté de tourner. C'était chez nos amis de Jubez.
Ouais.
Le jour où voilà, tu expliques que tu as un paquet de pâtes sur ton balcon.
Moi, je me souviens, Pessah dernier, l'année dernière, j'ai un ami qui arrive chez moi pendant Pessah, un ami non-juif, ok. Et il me dit, t'as un sac rempli de pâtes sur ton balcon. C'est quoi ça? J'ai dit, c'est pas à moi. Il me dit, mais c'est sur ton balcon. J'ai dit, c'est pas mon balcon. Il me dit, mais comment ça, c'est pas ton balcon? J'ai dit, je l'ai vendu. Là, il me dit, t'as vendu ton balcon? Mais à qui t'as fait ça? J'ai dit, je sais pas. Je l'ai vendu à 1 euro à quelqu'un que je connais pas.
J'adore, en fait, faire voir le judaïsme dans les yeux des non-juifs. J'adore. j'ai un sketch comme ça aussi dans mon spectacle sur le goy de Shabbat. Et non, j'adore. En fait, les non-juifs, parce que moi j'ai beaucoup d'amis non-juifs. Et des fois même, je les invite à Shabbat et tout, machin. Et en fait, ils nous prennent pour des oufs. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens pour eux, tu vois. Et même une fois à Shabbat, j'ai invité une amie non-juive. Et puis j'ai commencé à lui dire, alors voilà, donc là, on va faire une prière, on va chanter en hébreu. Ensuite, on va boire du vin. Ensuite, il faut aller se laver les mains. Ensuite, on n'a pas le droit de parler entre le robinet et la table. Ensuite, on va manger du pain et je vais te lancer des bouts de pain, ok, avec du sel. Et en fait, pour eux, ça n'a aucun sens. Et tellement ça n'a aucun sens qu'un jour, j'ai essayé un truc, j'ai dit, après qu'on s'est lancé des bouts de pain, en fait, on doit tous s'enrouler derrière un rideau et chanter la Marseillaise. Et ça ne l'a pas surpris.
Ça ne l'a pas surpris.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas fou, quoi. C'était pas plus absurde que le reste, quoi, tu vois. Et donc, non, j'adore. Donc, j'aime bien faire ce genre de blagues où je raconte des dialogues avec des non-juifs, un peu comme ce sketch qu'on vient de voir, là.
Un jour, tu as dit dans une interview, je préfère être bon dans ce que je fais, faire rire les gens et dire que je suis juif, et donc être un juif qui rayonne. Ouais. C'est quoi un juif qui rayonne ?
Aujourd'hui, je pense qu'un juif qui rayonne, c'est un juif qui respecte les nations, qui respecte les autres, qui se respecte lui-même, qui défend les valeurs de la Torah, qui l'étudie aussi, la Torah, qui essaye de se connecter avec cette chose-là. Parce que qu'est-ce qu'on était, nous ? On était des Hébreux qui se nourrissaient de manne dans un désert. C'est ça, c'est de là qu'on vient. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, en fait. Et quand on ne l'oublie pas et qu'on se connecte à ça, alors on rayonne un peu plus. Parce que voilà, moi je sais que par exemple, tu vois, je ne vole pas, enfin, j'essaye de vraiment bien me comporter parce que oui, ça existe le Chilul Hashem. Ça existe des Juifs qui font
la profanation du nom de Hashem.
Ouais, ouais, c'est ça. Ça existe. Bah, la profanation du nom d'Hashem, il ne suffit pas juste de dire le nom d'Hashem en mal. Il suffit d'avoir une kippa sur la tête et de pas aider quelqu'un dans la rue. Il suffit de. Vous savez, ça va vite. Hein. Un Juif qui fait un mauvais truc, c'est multiplié par 10 par rapport à un non-Juif qui fait un mauvais truc. On a cette chose-là en nous, on est capable du meilleur comme du pire. C'est pour ça qu'on est, pour moi, on est le peuple élu. Un mec comme Jeffrey Epstein, il est juif et ce qu'il a fait, ça a créé de l'antisémitisme. Les gens se disent, bah, regardez ce que c'est les juifs. Et bah, c'est ça les juifs. Bah, non, c'est pas ça les juifs. Évidemment que c'est pas ça les juifs.
Des fois, on a l'impression d'en parler à un rabbin. D'ailleurs, tu parlais de l'exemple de Shulchan avec la lettre Lamed.
Ouais.
D'ailleurs, on est en plein dans la période du Homer où c'est justement l'enseignement dans les Perkavot, il vient de là-bas, la source. Un repas sans Torah, c'est un repas d'idolâtrie. On va parler un peu de ta teshuva. Comment ça a commencé ? C'était quoi le déclic ? T'as pas toujours été dans cet état d'esprit ou dans cette pratique que t'as aujourd'hui ?
Non.
Comment ça a commencé ?
Bah, ça a commencé progressivement. Ça a été un processus.
Il y a eu un déclic ? Quelque chose ? Un événement ?
En fait, au début, il y avait une sorte de... je me sentais pas à ma place dans certains trucs. Mais c'était bizarre, tu vois. Par exemple, le vendredi soir, quand j'allais jouer en comedy club à Montréal, je faisais des spectacles le vendredi soir, tu vois. Et je commençais un peu à ressentir quelque chose. Mais de l'ordre de... t'es pas à ta place, là, ce soir-là. Ce soir-là, c'est pas ici que tu dois être. Mais pas de la culpabilité, attention. Attention, c'est pas là que tu dois être. Mais bizarrement, c'était bizarre. Parce que je commençais à étudier la Torah, en fait. Et puis, en fait, plus j'ai étudié la Torah, plus je suis tombé vraiment, comme on dit au Québec, je suis tombé en amour en fait avec ce texte et avec l'étude. Je trouve que c'est la plus belle chose en fait qu'il y a sur cette terre en fait, c'est la Torah et le fait d'en extraire son essence par le biais de l'étude. Parce que le texte il est figé, mais quand on va chercher ce qu'il y a à l'intérieur du texte, je trouve ça. Et je pense que depuis que je suis né, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Un peu angoissé, un peu névrosé, je réfléchis beaucoup au monde, j'essaie de le comprendre. Et je pense que cet esprit-là que j'avais, qui était vraiment dans la recherche de compréhension, de questions, les gens m'ont toujours dit, tu te compliques trop la tête, tu te compliques, mais pourquoi tu penses à tout ça, mais pourquoi tu fais ça? Et ben, en fait, quand j'ai vu la Torah et ce que c'était, j'ai trouvé un socle, en fait. J'ai trouvé un espace où je pouvais mettre mon esprit et il était bien, il pouvait bouger comme ça, il pouvait bouger, il était bien. C'était comme un... Voilà, une trouvaille, quoi. J'ai trouvé un peu ce truc-là et puis je ne le lâche plus aujourd'hui, j'étudie régulièrement.
On va revenir sur ton étude plus tard, tu vas nous raconter ce que tu étudies. Mais comment t'es passé de la transition du Comedy Club le vendredi soir à ton premier Shabbat ?
Bah, c'est un processus.
Comment t'es passé ton premier Shabbat ?
C'est le Covid. Ouais. En fait, c'est quand j'ai fait les premières parties de Kev Adam, c'est que je faisais le kidouche dans les zéniths, dans les loges. On faisait le kidouche ensemble et qu'après j'allais sur scène et qu'on allait en boîte de nuit. À un moment donné, je me suis dit, bon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Ouais. qui fonctionne pas pour moi. Pour moi, hein. Attention, ouais. Je ne juge pas les autres. Hein. Ouais, ça ne fonctionne pas pour moi. Ouais, voilà. C'est pas cohérent. Et puis, ouais, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tu ne peux pas. Tu peux pas à la fois trouver ce texte beau et que en fait il te prévient vraiment que fait dire la Torah, si on fait un résumé, c'est je vous ai sorti d'Égypte et faites Shabbat, hein. Vraiment c'est un peu redondant, ça tourne un peu autour de ça, et donc du coup je pouvais plus à un moment donné dire bah écoute là ça y est, quand le Covid est arrivé je me suis dit là t'as plus aucune raison, en fait t'as plus rien à faire. Donc du coup j'ai fait Shabbat dans le pire moment, c'est un grand repos de 3 mois, j'ai fait Shabbat pendant Shabbat, en fait, et du coup, ça a été très difficile. C'était les Shabbatot les plus durs pour moi, parce que du coup, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on était à la maison toute la journée, et à un moment donné, on éteint les téléphones, on met une lumière, et puis on ne fait rien. Alors qu'on ne faisait rien avant, tu vois. Et puis en plus, c'était les Shabbats d'été, tu vois. Donc ça durait jusqu'à 22h. C'était horrible, j'en pouvais plus. Je me disais, mais comment je vais faire? Mais je savais, à partir du premier Shabbat que j'ai fait, je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Parce que je me suis dit que, en fait.
C'est un ressenti ou c'est comment
tu. Ouais, je me suis dit, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce serait une décadence, en fait. Ce serait une régression. En fait, pas une décadence. Attention, c'est trop dur, ce mot-là. Ce serait une régression. J'avais pas envie de régresser. Je me suis dit, tu vois, c'est comme si t'as un escalier.
Homme de conviction, quand même, parce que tu pourrais dire, bon, bah, c'est une période calme. Je fais Shabbat. Et après, bon, ça reprend le travail. On me rappelle. Je repars au travail le vendredi soir. Pas, t'as dit, je reviens pas en arrière. Donc, t'as quand même des convictions assez solides.
Ouais, mais je pense que quand j'ai fait Shabbat à ce moment-là, je sentais que c'était. J'étais aidé aussi beaucoup. J'ai été. Ça me.
Aidé, tu veux dire, t'as reçu une aide du ciel, genre, qui t'a donné cette force-là, ou t'avais des
gens. Je me souviens les deux. Je me souviens que c'était facile, que les choses s'organisaient bien, que j'avais une espèce d'aide comme ça. J'ai eu beaucoup d'angoisse aussi dès que les comedy clubs et les salles ont réouvert. Beaucoup d'angoisse de me dire, mais comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire pour dire...
Comment ça fait, alors, comme coup de fil qui te dit, voilà, on t'inscrit pour vendredi soir?
Je, c'était terrible, en fait. C'était horrible. Je me disais que... En fait, c'était plus fort que moi. Je disais, je vais garder Shabbat. C'est un truc que je vais faire et ça fait partie de ma vie. Donc maintenant, comment on fait, en fait? Comment on fait pour que ça se passe? Et c'est là que j'ai été aidé, je pense. C'est là que j'ai été aidé parce qu'en vrai, tout s'est goupillé de façon à ce que ce soit possible et aussi de façon à ce que je sois respecté pour ça.
C'est-à-dire, tu dis la vérité? Quand on te dit, viens vendredi soir jouer?
Je dis la vérité. Et les gens me respectent.
C'est fort, ça.
Les gens me respectent. Ils me disent, ah, bah écoute, force. Les musulmans me respectent, les chrétiens me respectent, les athées me respectent. Parce qu'en fait, et les juifs me disent, mais attends. C'est-à-dire, il y a 10 000 euros à se faire un vendredi soir? T'y vas pas? Chazak ou Barour. Genre le Chazak, c'est genre moi j'aurais passé, j'aurais le Chazak.
Est-ce que tu as déjà refusé un contrat très lucratif pour tes convictions, que ce soit pour Shabbat ou peut-être Yom Tov, parce qu'on va en parler plus tard?
En fait, j'ai pas refusé un contrat très lucratif parce que je n'ai jamais eu de contrat très lucratif étant donné que je suis pas une rosta. J'ai refusé des choses qui auraient pu m'amener des choses, par contre. J'ai refusé des festivals, des gros festivals où ça jouait le vendredi soir et le samedi soir, télévisé. J'ai refusé des premières parties. J'ai refusé des dates de tournée. Parce qu'il faut savoir que quand tu joues en province, ça sort le vendredi soir et le samedi soir. Donc, ça sort pas beaucoup le mardi ou le lundi ou le mercredi. Mmh. Ça a un peu changé depuis. Ça a un peu changé. Aujourd'hui, tout le monde sort tout le temps. D'où un peu l'aide, je trouve, que les choses, le monde s'organise aussi de façon, je dis pas que je suis auto-centré.
Mais évidemment.
Le monde s'organise autour de moi.
Non, mais c'est un signe.
Mais c'est quand même une aide pour moi, que je prends pour moi aussi.
Bien sûr.
Mais donc, du coup, oui, j'ai refusé des choses qui m'auraient permis, effectivement, peut-être de déclencher une accélération de carrière. Et j'ai refusé des contrats avec un peu d'argent. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est plus que je refuse. C'est même plus ça. Au début, peut-être, je refusais. Mais aujourd'hui, je refuse plus. Aujourd'hui, on me propose plus tellement. Et puis, quand on me propose, je dis, bah, voilà, moi, je ne suis pas disponible cette date-là, mais si vous avez une autre date, puis on trouve une autre date. Et puis, s'il n'y a pas d'autre date, je réfère à d'autres humoristes. Je n'ai aucun problème à faire ça. Je n'ai pas de problème. Je suis beaucoup plus serein avec ça.
Et alors, comment tu gères ta carrière au quotidien? Donc, tu ne joues pas le vendredi soir, mais des fois, tu as des spectacles le samedi soir.
Ouais.
Comment tu gères? Comment tu te
réunis? Ça, j'adore.
On va parler beaucoup des Chabad, là, non?
Alors, on va parler des Chabad, mais on va pas nécessairement parler des Chabad. On va parler aussi des Airbnb. On va parler de la glacière dans le train avec la dame route, la bourra, le vin kasher et la salade cuite. On va parler de tout ça. Je vais faire le Shabbat le vendredi soir. Je suis toujours accompagné. C'est très important pour moi de jamais faire Shabbat seul. Très important. Ça, je le sais. C'est trop dur. Ce serait trop dur pour moi de faire Shabbat tout seul.
Okay.
Genre, Et puis, franchement, c'est même un manque de respect pour Shabbat lui-même que de me mettre dans un état où je m'ennuie et je suis un peu triste, tu vois.
C'est ça.
Donc, pour profiter du Shabbat, je suis toujours accompagné. Toujours accompagné. Et je vais faire Shabbat dans un Airbnb. Et donc, des fois, il n'y a pas de synagogue. Donc, je fais la prière à la maison. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis, je ne fais pas non plus, je ne fais pas un grand prieur. Je fais les prières principales. Et puis, c'est déjà très bien.
C'est super.
Et puis, on fait un petit kidouche le vendredi soir et le samedi. Samedi matin, petite prière. Le déjeuner, le kidouche. Et l'après-midi, généralement, petite sieste, petite balade. On visite un peu le village dans lequel on est. Puis, Shabbat sort. Avdalouille. Petite Avdalouille. Et c'est Avdala.
Avdala, ouais,
pour ceux qui... Petite Avdalouille. Et je vais faire le spectacle. Voilà. Et puis c'est très sympa, franchement, c'est des Shabbats qui sont hyper sympas. Moi, je les adore, je les kiffe. Parce que t'es dépaysé, quoi, tu vois. T'es dans un Airbnb, dans un petit village, et t'es tranquille.
Bah, t'as raison. Franchement, bravo. Et on parle de Shabbat, il y a aussi les jours de Yom Tov, donc les jours de fête.
Ouais.
Et c'est quoi les situations des jours de Yom Tov? Je sais qu'une fois, t'as raconté le jour où ton père t'a demandé d'imprimer quelque chose un jeudi soir.
Ouais. Ben, ça, c'était au début.
Ah, c'est au début.
Ouais, c'est au début quand je faisais la teshuvah et qu'au début je commençais à faire Shabbat et puis que mon père me disait putain, tu fais Shabbat, et puis un soir il arrive à la maison, il me demande d'imprimer un truc, c'était Shavuot, tu vois, c'était Shavuot et puis je lui dis je peux pas toucher l'électricité, tu vois, il me dit mais on est jeudi là. Je lui dis bah c'est Shavuot, ça commence ce soir et ça finit samedi soir. Et dans un élan de panique il m'a dit mais tu vas toutes les faire là, toutes. Je lui dis bah oui. Toutes les faire.
T'as un parent ashkénaze et un parent sfarad, ouais. Entre les deux.
Ouais.
Comment t'as géré Pessah il y a deux semaines? Ça doit être compliqué à gérer, ça, non?
Alors, mon père n'est pas du tout religieux, donc il a pris complètement les rites et les coutumes de ma mère juive tunisienne. Donc, il mange du riz et tout.
Non, t'as ambiance sfarad à la maison.
Ambiance sfarad, ouais. Moi, par contre, du coup, comme je suis ashkénaze, parce que je prends le rite de mon père, je n'ai pas mangé de riz. Je ne mange pas de riz à Pessah.
On connaît tous la phrase culte dans les aventures de Rabbi Jacob quand on lui dit tu feras deux sabbats la semaine prochaine.
Ouais.
Et est-ce qu'on te l'a déjà dit ça quand on te dit viens jouer vendredi soir, ben t'en feras deux la prochaine fois.
Ouais, on m'a dit mais tu peux pas aller voir un rabbin pour que un grand rabbin pour qu'il te laisse. C'est quoi qu'on m'avait dit il y a prescription sur certains shabbats que tu peux reporter. Parce que les musulmans, ils ont ça, tu vois. Ils ont pendant le jeûne du Ramadan, ils ont des jours où, par exemple, s'ils sont pas bien, ou par exemple quand les femmes ont leurs règles, ils peuvent reporter. Alors les femmes, je crois qu'elles doivent reporter parce qu'elles sont pas obligées de jeûner quand elles ont leurs règles. Mais il y a des gars s'ils sont malades, ils se sentent pas bien, ils ont mal à la tête ou ils peuvent pas vraiment faire le jeûne en étant bien, ils reportent. Donc il y a ce truc là dans les autres religions que nous on n'a pas en fait.
On n'a pas, tu vois.
On n'a pas. Moi, je dis franchement, Shabbat, il y a qu'une seule raison pour laquelle je ferais que je fasse pas Shabbat, c'est si c'est une question de vie ou de mort, en fait. Donc, c'est quoi là? C'est quoi la vie ou la mort? Explique-moi là. Ben non, mais c'est juste parce qu'à Rouen, en fait, il y a une salle qui veut te programmer à Rouen. Oui, mais est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Demande-leur. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Si oui, alors peut-être on ira voir un grand rabbin et on pourra y aller. Mais non, mais en vrai, je blague, ils ont compris, hein, ça y est, ils ont compris.
Toi, en fait, tu joues souvent, enfin, tu joues ta carrière quand tu prends le risque de refuser des contrats le vendredi, de plus jouer le Shabbat, etc. Il y a un enjeu derrière. Mm. T'as pas un assas, ce qu'on dit, ton gagne-pain.
Mm.
Est-ce que tu prends la conscience de la valeur de ton Shabbat qui est beaucoup plus haut?
Je suis chômeur Shabbat. C'est-à-dire, je suis gardien, je sens que je suis chômeur Shabbat, en fait. Je sens que dans ma vie, si je mets pas des murs autour de Shabbat, ça s'écroule. Alors que c'est vrai qu'il y a certains juifs pour qui c'est devenu mécanique. Certains juifs religieux, ils ne se posent pas de questions. Ben voilà, c'est Shabbat. Voilà. Tout est organisé pour que c'est Shabbat. Et d'ailleurs, justement, je leur pose la question à ces gens-là. Est-ce qu'ils font Shabbat?
Pas mal.
Ouais.
C'est vrai.
Parce que je pense que c'est important, et je reviens justement à mon amour pour l'étude de la Torah et de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le juif... Nous, on a une responsabilité, et cette responsabilité, c'est de faire vivre la Torah en nous. C'est ça, la responsabilité qu'on a. Sinon, on ne peut pas la transmettre, si on ne la fait pas vivre en nous. Et qu'est-ce que c'est faire vivre la Torah en nous? Bah, c'est en avoir conscience à chaque instant, en fait. Sinon, ça meurt.
Mm.
Et je pense qu'un Shabbat qui devient trop mécanique, dans lequel on ne réfléchit plus,
t'oublies.
C'est quelque chose qui meurt dans son essence et dans la vie et la vitalité que tu lui donnes quand tu le fais. Mm. C'est très dur de faire Shabbat. C'est très dur de prier aussi. On prie, des fois on prie mécaniquement. On fait ce qu'il y a à faire, tu vois. Pourtant, est-ce qu'on mesure la portée de chaque mot qu'on dit, tu vois? C'est ça la difficulté, c'est ça la responsabilité, c'est avoir conscience de ça. Donc oui, moi, là où fort par la force des choses, en fait, parce que je dis pas que moi j'arrive à le faire, hein, je suis comme vous, hein. Franchement, ça devient aussi, on a du mal à prendre conscience systématiquement de ce qu'on est en train de faire, tu vois.
C'est la force qu'on appelle la force de l'habitude.
C'est la force, c'est la force, d'ailleurs, c'est la force négative de l'habitude.
Ouais.
C'est celle qui nous tire un peu vers la léthargie, quoi, tu vois. Mm. Je pense que par la force des choses, ouais, je dois faire vivre Shabbat, effectivement. Et qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? Et même ma productrice qui n'est pas juive, elle me dit qu'est-ce qu'on fait à Shabbat, le machin, à Montluçon, qu'est-ce qu'on fait pour Shabbat à Montluçon? Et c'est quel Airbnb? J'ai cherché, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de rabat, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, elle n'est pas juive, elle connaît tout maintenant. Tu vois, mais oui, donc c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? Qu'est-ce qui se passe? Comment on organise? Et cette chose-là de organiser Shabbat, bah, forcément, par la force des choses, elle me fait le faire vivre de par l'organisation et les actions que je mets dans ma vie pour l'organiser, tu vois. Contrairement à certains juifs où ça s'organise tout seul. Mais je pense que peu importe que ça s'organise tout seul ou que ça ne s'organise pas tout seul, effectivement, la seule manière de faire vivre Shabbat, je pense aujourd'hui, hein, c'est le lamed dans le shulchan. C'est le limoud, c'est dire des paroles de Torah.
L'étude.
Je dis que je me suis mis à pratiquer un petit peu le judaïsme. Je le dis sur scène, d'ailleurs. Je le dis à Jubez Comedy, comme je le dis à Clermont-Ferrand, tu vois ce que je veux dire? Donc je le dis devant des non-juifs, et je dis que c'est très compliqué. Je dis qu'il y a des contraintes alimentaires, tu vois. Je dis que, par exemple, nous les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Et je dis que c'est très grave, tu vois, c'est très grave de manger un poisson qui n'a pas d'écailles et pas de nageoires. C'est un peu comme si les musulmans mangeaient du porc, c'est un peu comme si les chrétiens mangeaient... C'est cool votre truc, tu vois, c'est quand même cool. Et je dis que ça m'amène des situations un peu particulières. Par exemple, il y a quelques mois, c'est vrai que j'étais en tournée et il y a la programmatrice de l'événement qui vient me voir et qui me dit « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Je dis « À quoi ?» Elle me dit « Il y a du poisson. » Je dis bah, « C'est quel poisson ?» Elle me dit bah, « C'est du poisson blanc, il est très bon. » Et là, bah, je lui dis « Mais est-ce qu'il a des écailles ?» Elle me fait « Bah non, c'est des filets là, il n'y a pas d'écailles. » Là, je fais des petites nageoires, quelque chose, petites nageoires brunettes. Et donc du coup, c'est intéressant de parler du judaïsme à des gens qui ne sont pas juifs, sous une autre forme qu'ils peuvent entendre sur BFM TV ou CNews. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que le judaïsme aujourd'hui, il est vachement relié à la situation géopolitique, à Israël, au gouvernement israélien. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. C'est pas mon délire. Je suis pas politicien.
On rentrera pas là-dedans.
On rentrera pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, et le judaïsme que je défends, c'est pas ça. Moi, le judaïsme que je vis et que je fais vivre à l'intérieur de moi, c'est le judaïsme de la Torah, de l'étude de la Torah et de la spiritualité. Voilà.
Ta façon de parler, tu sais, quand quelqu'un il fait tchouva, il veut à tout prix raconter à tout le monde ce qu'il fait et convaincre les autres de faire la même chose. Mmh. Toi, c'est pas ton discours, tu vois.
Pas du tout.
Mais pourtant, c'est l'effet que ça fait.
Ah ouais,
ouais.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il trouvait ça fort, tu vois, quand je t'ai entendu parler.
Mmh. Je pense que, en fait, moi, il y a un truc qui s'est passé. C'est que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir sur ma route des gens qui m'ont transmis leur amour de la Torah, en fait. Et donc, du coup, à travers l'étude de ce texte, et quand moi je me suis mis à étudier ce texte et que je me suis retrouvé pour la première fois en face d'un gars qui, à peine, il ne m'avait même pas dit bonjour, il ouvre un livre et il me parle d'un mec qui creuse un tunnel pour aller voler dans une maison. Vraiment, j'étais là, tu veux pas qu'on commence par, je sais pas, Adam et Ève, quelque chose, le serpent, la pomme, là. Directement, il rentre dans un sujet comme ça, il me fait, il a pas de sang, qu'est-ce que ça veut dire, il a pas de sang? Je fais, je sais pas, ça veut dire, il a pas de sang. Franchement, j'avais fait une petite blague, j'avais dit, écoute, c'est-à-dire, en cas de prise de sang, il y a rien dans les tubes. Il a pas rigolé, tu vois, c'était très sérieux, tu vois. Mais quelque part, ce sérieux-là qu'il avait, cet engagement qu'il avait, au fur et à mesure, et quand il m'a transmis un peu l'essence de ce que ça venait défendre, la Torah, c'est une compréhension du monde, la Torah. C'est quelque part, on dit que la Torah, elle a été écrite 2000 ans avant la création du monde, et que le monde, il a été créé, enfin, que c'est comme un mode d'emploi, la Torah de la construction du monde. Ben, c'est vrai que quand on est avec des gens comme ça qui nous transmettent ça et qui nous font vivre cette chose-là, eh ben, j'ai, comment dire, j'ai eu ces gens-là sur ma route qui m'ont transmis cet amour et que moi, maintenant, j'aime la Torah comme eux, ils l'aiment, et que par amour pour la Torah, du coup, je m'y engage. Comme quand on aime quelqu'un, on donne sans espérer en retour. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, même dans ma famille, ils me disent, mais ça t'apporte quoi de faire Shabbat? Ça t'apporte quoi de manger kasher? C'est que de la contrainte, ça t'apporte quoi? Et bah, tu sais quoi, je me suis même pas posé la question de ce que ça m'apportait, puisque comme c'est un élan d'amour pour cette chose, je n'attends rien en retour, en fait. Et ça m'apporte, en plus, énormément. Mais c'était pas le but premier de faire Shabbat. Le but de faire Shabbat, c'est que c'est pas par amour pour la Torah et par aussi compréhension de ce que ça vient défendre. Et l'importance que ça y accorde, je me dis, bah, je peux pas passer à côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, peut-être que pour répondre à ce que tu disais, peut-être si ça vient chercher les gens, si ça vient les toucher dans ce que je fais, je pense que c'est plus l'amour que j'ai pour cette chose qui se transmet et qui se ressent, et c'est ça que ça vient chercher. Plus que, allez, il faut faire Shabbat, c'est important de faire Shabbat. Non, je suis pas du tout là-dedans. Et pourtant, la personne qui nous a tous un peu enseigné la Torah, moi je viens de l'école d'Avraham Abitbol, qui est justement, on peut lui rendre hommage, le fils du Rav Eliyahu Abitbol, qui est décédé à Strasbourg, ouais, qui était un grand monsieur, un grand sage de la Torah. C'est le père d'Avraham Abitbol. D'ailleurs, je lui ai écrit un message à Avraham, je lui ai dit qu'en fait, son père, il lui avait transmis énormément, et que grâce à sa transmission, lui nous l'a transmis aussi en retour. Donc quelque part, c'est je pense que la meilleure façon de continuer à vivre, c'est de transmettre. Et j'en parle dans mon spectacle justement. Je parle de la transmission.
Et toi, tu réponds quoi aux gens qui te disent, qui voient ton process, tu dis, mais est-ce que Dieu il existe vraiment? Prouve-moi que Dieu il existe.
Personne n'a posé cette question parce que je pense que eux-mêmes ils comprendront l'absurdité de cette question.
D'accord.
Ben, je veux dire. Prouve-moi que Dieu existe. Il n'y a rien qui marche dans cette phrase. Dieu, c'est pas une formule de maths. C'est pas. Ils le savent très bien d'ailleurs que c'est pas une formule mathématique. Dieu, ils le savent. Alors, ils croient en la science, bien sûr. Ils croient en la planète, en l'atmosphère, en le système solaire et tout. Mais ils voient très bien qu'il y a une limite à tout ça. Ils le voient. Ils peuvent pas appeler ça Dieu parce qu'ils sont athées et qu'ils comprennent pas et que ça leur suffit. Mais prouve-moi que Dieu existe. Moi, j'ai jamais eu cette question. Moi, j'ai mon père qui me fait des remarques des fois. Ça me désole. Tu fais des choses, ça sert à rien, c'est ridicule, ça me désole. Ça me désole.
Et justement, c'est quoi le rapport que tu as avec tes parents, avec ton père sur la religion? Est-ce qu'il y a des débats des fois?
Ouais, des petits débats, mais ils respectent complètement. Enfin, je veux dire, mon père, si tu veux, mon père, c'est ses ancêtres. Enfin, je veux dire, moi, je suis d'un descendant du Gaon de Vilna.
Waouh! Comment t'es remonté jusqu'à Ougo?
Il y a eu un livre qui a été écrit avec tous les descendants, ils se sont appelés les uns les autres, il y a eu un livre avec tous les noms, et à un moment donné, ils appellent ma tante. Ils disent, voilà, vous êtes des descendants du Gaon de Vilna, on aimerait avoir vos noms, ainsi que, est-ce que vous avez de la famille, des petits-enfants, des enfants? On va les noter dans le livre, et puis on fait partie. Donc, si tu veux...
C'est un peu d'ouf.
Pas pour que je fais pas du name drop, là, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, quand je dis à mon père que je suis chômeur Shabbat, que j'étudie la Torah, qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, ça le désole, mais en même temps, il remonte. Il suffit pas de remonter, faut pas remonter bien loin pour comprendre qu'en fait, ils étaient tous comme ça. Donc, ça fait partie de... Finalement, je poursuis cette chaîne, en fait.
Tu nous as beaucoup parlé du Shulchan, de la lettre Lamed, du Limoud.
Ouais.
C'est quoi ton étude? Comment t'étudies? Est-ce que t'étudies avec quelqu'un?
Ouais, j'étudie...
C'est quoi que t'étudies comme texte?
J'étudie beaucoup avec des gens de Montréal, justement du métamidrage d'Avraham Abitbol, dont je parlais tout à l'heure. Il y en a deux qui se sont un peu... avec qui j'ai beaucoup étudié. Il y en a un qui s'appelle Daniel Glassman. Il y a un autre gars avec qui j'étudie en ce moment assez régulièrement, qui s'appelle Michael Cohen. Et donc lui, en fait, c'est lui qui m'a parlé de ça. Donc ce Lamed, Limoud, en fait, la majorité des choses que je vais te dire, c'est des choses que ces deux hommes fantastiques m'ont transmis.
Quel texte étudies avec eux?
C'est quoi? La paracha de la semaine avec les commentaires. Avec des commentaires de Rashi et puis d'autres commentaires. Et des fois, on va sur des gmarotes, mais en ce moment, c'est surtout paracha de la
paracha. Est-ce que tu pourrais dire que ta teshuva a changé ta façon de faire l'humour? L'humour dans le judaïsme, il a une vraie place. Torah Box, ici, on a eu des projets d'Arka qui ont fait faire teshuva à énormément de gens, de manière générale. Donc l'humour, ça a une force.
Bien sûr, l'humour, ça a une force. Et puis l'humour, c'est l'humour juif, on connaît. Hein. On sait d'où ça vient. Et puis les juifs sont très forts en autodérision, tout ça. Moi, je sais que... ça a toujours été un moyen de défense pour moi, un moyen d'exister. Je sais que j'ai eu un frère qui était très très bon dans tout. scolairement, en sport et tout, et que moi, peut-être que la façon dont j'avais de briller aux yeux de mes parents, aux yeux des gens dans la cour de récréation, c'était par le biais du rire. Donc moi, l'humour, c'est quelque chose que j'ai formé par cette forme de souffrance et de survie aussi. Parce que quand on est enfant, on cherche à avoir l'attention des autres, et que quand on n'a pas l'attention des autres, on trouve des solutions pour l'avoir, et on va chercher en nous ce dans quoi on est bon. Donc moi, l'humour, il vient de là. Il vient pas de mon étude de la Torah, l'humour. Au contraire, je vais te dire un truc. Il y a bien un domaine dans lequel je suis sérieux et que j'ai pas envie de blaguer, c'est quand j'étudie la Torah. Mmh. Et tu vois, ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de choses sérieuses. J'ai pas fait une blague et pourtant je m'ennuie pas. Tu vois, peut-être j'ennuie les gens.
Non.
Peut-être j'ennuie les gens, je sais pas. Mais en tout cas, venez voir mon spectacle pour rigoler. Mais oui, non, c'est sûr, c'est bien un domaine dans lequel je suis sérieux. C'est le seul. C'est intéressant. C'est le seul domaine dans lequel je suis sérieux et j'ai pas envie de faire de blagues. Sinon, dans les dîners, dans les sorties.
C'est-à-dire que quand tu étudies, tu vas pas placer une blague ou une petite vanne.
Je vais pas avoir ce besoin. C'est intéressant.
Ouais.
Je vais pas avoir ce besoin.
C'est super intéressant.
Je vais plutôt avoir ce besoin de justement aller comprendre, aller chercher, aller. Je suis passionné par ça, vraiment.
Alex, on arrive à la fin de l'interview. Si tu revois le Alex il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Franchement, je lui dirais ça va aller. Ça va aller. Tu continueras à prendre du Gaviscon. Mais ça ira quand même beaucoup mieux dans ta tête.
Alex, merci beaucoup d'être venu sur Torah Box.
Ouais, avec plaisir.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
La parnassa, la simcha, la choupa, la paix en Israël, que les gens soient heureux, que les gens soient dans la spiritualité et le Mashiach.
Amen. Alex, pour finir, est-ce que tu peux faire ce que tout le monde attend dans ton spectacle, c'est-à-dire la chanson improvisée pour Torah Box? En exclusivité.
Allez,
c'est parti.
Je vais essayer, hein. Je te garantis pas, c'est de l'impro. Et là, je tiens à dire à tous nos téléspectateurs que c'est vraiment de l'impro. Parce que des fois, il y a des trucs, c'est préparé, mais là, il n'y avait rien qui était préparé, en fait, faut le dire.
Là, voilà. Je n'étais pas au courant, t'as l'air de ta guitare.
Torah Box, les Juifs. On était sur Torah Box et on a kiffé. On n'a pas trop rigolé, mais on a parlé de spiritualité avec notre ami Joseph. Ouais. Super impro, n'est-ce pas? Ouais. Panim, meilleure émission de Torah Box. Écoutez, par 200 personnes. On parle des gens qui ont fait Teshuva pour inspirer les gens qui ont pas fait Teshuva. J'espère que je vous ai un petit peu inspiré. Venez, on fait tous Shabbat une fois et on voit si le Mashiach viendra. Et si jamais il vient, eh ben on fera Shabbat tout le temps, car c'est ça la vie du peuple juif, c'est de rien faire, à part des barbecues, de manger d'Adam Kroté la bourra. Voilà Joseph, c'est une petite impro, comme ça.
Parfait.
Et j'espère qu'elle te plaira, cette petite chanson que j'ai faite pour toi.
Magnifique.
À toi de chanter, mesdames. Répète après moi, c'est pas prêt. Torah Box, c'est super. Torah Box, c'est super. Torah Box, c'est super.
Yeah. Alex, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur.
Pour Joseph, chantons tous Mazel Tov. C'est pour Joseph, chantons tous Mazel Tov. On peut pas, c'est le Homer là, on peut pas trop s'enjailler. On peut pas trop s'enjailler, ouais, pas long.
Bravo. Merci beaucoup.
Je peux te faire une chanson Ashkenaz.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
On te souhaite le meilleur.
Et je te souhaite le meilleur à vous aussi, tous les gens qui ont regardé cette vidéo. Beaucoup de belles choses.
Voilà. Merci beaucoup.
Que des bonnes nouvelles. Amen, ve amen. Kin Evanson.
Amen.
T'as marqué qu'il y avait un langage religieux.
Ouais.
Un langage religieux. Pour parler religieux, c'est très simple. Tu dois remplacer des mots français par des mots hébreux. Tous les oui, tu les remplaces par Baruch Hashem. Merci par Amen. Et au revoir si Dieu veut. Salut Alex, ça va?
Baruch Hashem.
Ça se passe bien les vidéos et tout, ça se marche bien en ce moment. Amen, amen. Tu me dois 200 euros, tu t'en souviens? Si Dieu veut. Tu parles religieux.
On va rester sur ça. Merci beaucoup Alex. À très bientôt. Merci. Sur Torah Box. Belle continuation. Au revoir. Merci.